بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لوانج الله سبحانه وتعالى Seigneur demande que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble messager, le messager de la miséricorde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons et ceux qui suivront son chemin jusqu'au jour dernier. Nous débutons notre cours sur le Usulul Fiqh et nous allons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parcourir le livre de l'un des savants de Usulul Fiqh, l'un des très grands savants de Usulul Fiqh, appelé Al-Waraqat. Al-Waraqat, qui veut dire quelques feuilles, d'Imam Abu Ma'ali Al-Juwayni, surnommé, bien connu de Imam Al-Haramain. Ce livre, il avait nommé ce livre appelé, il avait nommé ce livre Al-Waraqat. Al-Waraqat, ibaratun an jam'un min al-waraq, ou bien waraqa. Jam'u waraqa. Waraqa veut dire la feuille. Waraqat veut dire les feuilles. Et waraqa a deux pluriels. Waraqat et oraq. Mais Cheikh Imam Al-Haramain, il a surnommé ce livre Al-Waraqat. Comme pour dire, quelques feuilles sur lesquelles il va nous laisser des enseignements. Quelques feuilles sur lesquelles il va nous laisser quelques enseignements sur le sol du fiqh, le fondement du fiqh. Le sol du fiqh est beaucoup plus connu chez les savants de l'islam comme le fondement du fiqh, de la jurisprudence islamique. Le fiqh, c'est la jurisprudence. Et le usul al-fiqh, c'est le fondement de la jurisprudence. Et comme toute discipline, comme toute science, il y a son usul. Chaque science ayant son usul, le fiqh a son usul. Nous parlons parfois de tafsir, et le usul est tafsir, le fondement du tafsir. La science qui nous amène à bien comprendre le tafsir. Nous avons le hadith et son usul, appelé beaucoup plus mustalah hadith. Et le mustalah ou bien le usul du hadith est une science qui nous amène à mieux comprendre le hadith comme science. Nous avons aussi le fiqh qui est une science et nous avons les fondements du fiqh qui est le usul du fiqh qui nous amène à comprendre mieux le fiqh. Et nous allons parcourir, inshallah, biiznillahi ta'ala, ces feuillets de Al-Waraqat. En commençant d'abord par une introduction qui est déjà ce qu'on est en train de vouloir faire, suivi de Tarif bin Musannif, et connaître qui est l'auteur de ce livre appelé Al-Waraqat. Et nous allons aussi par la suite prendre Mabadi Ilm Usul al-Fiqh, c'est-à-dire que les pionniers de la science, de cette science appelée Usul al-Fiqh. Nous allons aussi prendre le Mukaddima de Waraqat. Nous allons aborder dans la même assise ici le Mukaddima de Al-Waraqat, Mukaddima de Al-Waraqat. Par la suite, nous allons prendre Ta'rif Usul al-Fiqh bi-Itibari Mufradehi. Nous allons entrer dans la définition de Usul al-Fiqh concernant, par rapport à ce groupe de mots constitué de Mudaf et de Mudafu Ilehi, le Usul du Fiqh. Usul al-Fiqh, Mudaf, Mudafu Ilehi. وسنتطرق لتعريف هذه لتعريفه باعتبار مفرده باعتباره مضاف مضافا إليه. Et par la suite, nous allons clôturer cette première assise avec l'ahkam al-shar'iyya, le chapitre qui va nous amener à comprendre l'ahkam al-shar'iyya intitulé par l'auteur lui-même, rahimahullah ta'ala. Nous disons donc que فإن علم أصول الفقه مما عني به المتقدمون والمتأخرون وهو المنهج الشرعي لتعريفه على حكم الله فيما يجد ويحدث من قضايا ونوازل. أصول الفقه c'est une science, c'est-à-dire le fondement du fiqh, c'est une science dont les prédécesseurs, les pieux prédécesseurs, se sont tellement investis là-dessus. On y a dit al-mutaqaddimun itano bihada al-ilm. Ils se sont vraiment adonnés, ils se sont vraiment investis dans la science de l'usul al-fiqh, ainsi que les mutaakhirun, ceux qui sont venus après. Et ils ont écrit des livres, ils ont enseigné, ils ont écrit même des livres là-dessus, dont nous allons citer quelques livres en passant. Wal-manhaj al-shar'i li-ta'rif, et c'est une bonne méthodologie dans la charia afin de connaître les ahkam, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut donc dire que le fiqh a pour objectif de faire comprendre à l'étudiant les ayat, la compréhension des versets et des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la bonne compréhension des textes pouvant régler ou orienter sur les sujets qui arrivent nouvellement. Al-qadaya wa-nawazi. Al-qadaya, c'est les situations qui arrivent, et les nawazi, c'est ce qui les sujets qui tombent de nouveau, alors que peut-être les gens à l'époque n'avaient pas cela. Mais le fiqh t'amène à faire le istinbat et à comprendre comment est-ce qu'on peut se comporter face à une situation nouvelle dans la charia. Et alhamdulillah, nous vivons donc un moment où les tulab al-ilm se sont vraiment adonnés à cette science, soit en étudiant, soit en enseignant, et soit en se tournant vers les savants, qui sont les kibar ulama, les grands savants, qui nous enseignent comment donc comprendre le fiqh et son usul. Pas seulement le fiqh et son usul, et bien d'autres filières, et bien d'autres funun de la charia, c'est-à-dire que les spécialités de la théologie. فهم أصول الفقه يستفاد منه الاستنباط وإحاطة بما يقيم اللسان. أصول الفقه nous est plus utile dans l'istinbat. Et qu'est-ce qu'on attend par l'istinbat? L'istinbat, c'est l'aptitude de pouvoir exploiter un texte juridique. L'aptitude de pouvoir exploiter un texte juridique. Donc, chaque texte juridique a une portée juridique, n'est-ce pas? Chaque verset coranique concernant les ahkam, ce qu'on appelle ayatul ahkam, et qu'on appelle aussi les ahadithu al-ahkam. Les ahadithu al-ahkam, tu les trouves dans les livres comme Bulugh Maram, ou bien Umdatul Ahkam, ou bien Muharrar, Al-Muharrar al-Hadith. Il y a encore d'autres, n'est-ce pas? Ces livres-là, les savants, les auteurs de ces livres-là ont ciblé les hadiths concernant les ahkam. Ils les ont rassemblés, certains savants viennent maintenant faire le sharh de cela. On les appelle les hadiths al-ahkam. Et chaque hadith, parmi les hadiths al-ahkam, ou chaque ayah, parmi les ayats al-ahkam, renferme un certain nombre de lois dont le prédicateur, le théologien doit comprendre. Et il ne peut comprendre ces lois-là que s'il a utilisé l'usul al-fiqh. S'il a étudié le solo, le fiqh, ça te donne la capacité de pouvoir exploiter les textes juridiques, que ce soit du Coran ou bien de la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, pour nous amener à comprendre certains textes, il donne parfois certains textes, ils sont explicites, mufassara, et il donne certains textes, ils sont mujmala, ils sont grosso modo. Et pour comprendre un texte qui est grosso modo, il faut avoir quelques connaissances dans le sol. Et l'une des causes dans l'envoi des messagers par Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre à ses créatures, c'est envoyer les prophètes vers les hommes, c'était les amener à comprendre mieux la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut donc dire que quand tu vérifies, tu observes bien le rôle des prophètes, il venait expliquer aux hommes la volonté d'Allah, les textes d'Allah. C'est-à-dire quand un verset descendait, les Sahaba attendaient l'explication du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que le texte ne peut pas être compris parfois jusqu'à ce que le savant explique. C'est ça qui fait donc la différence entre celui qui est passé entre les mains des savants et celui qui est autodidacte en religion, il prend ces choses, il lit parce qu'il connaît un peu de l'arabe. Celui-ci, il va faire l'accident. C'est-à-dire celui-ci va cogner, il ne va pas s'en sortir. Parce qu'il est difficile d'exploiter les textes sans les mabadi de Rasoul. Il est difficile d'exploiter les textes sans un savant qui va te coacher dans cela. C'est la raison pour laquelle les prophètes avaient pour rôle, les prophètes et les messagers, ils avaient pour rôle d'aller vers les personnes avec les textes qu'ils ont et les expliquer encore parce qu'il y a d'autres qui vont comprendre et ils vont se poser des questions, comment mettre en application ou bien comment d'abord comprendre le texte. Et ici donc, l'importance de connaître la langue arabe, déjà, qui est la langue de la prophétie, la langue à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à l'humanité. Naam, c'est la raison pour laquelle il est presque difficile, comme on dit les savants, de maîtriser la religion si tu ne connais pas la langue arabe. De maîtriser la religion si tu ne connais pas la langue arabe. Et cette langue arabe, non seulement elle va t'aider à comprendre la religion, elle va savoir si te faciliter l'adoration. Et Cheikh l'Islam, il dit que l'apprentissage de la langue arabe est une obligation. Pourquoi? Parce que comprendre la religion est obligatoire, n'est-ce pas? Si comprendre la religion est obligatoire, alors on ne peut comprendre cette religion qu'en passant par la langue arabe, ce dont l'obligation ne peut être concrétisée que par elle devient aussi obligatoire. Il dit, rahimahullah, il dit, ta'allum lugat al-arabiyya wajib. Id la yatimu fahmu din illa biha. La yatimu fahmu din illa bil arabiyya. Car la maîtrise de la religion ne peut passer que par l'apprentissage de la langue arabe. N'est-ce pas la maîtrise de la langue arabe? Fama la yatimu al-wajib. Fama la yatimu al-wajib illa bihi fahu al-wajib. Ce dont le wajib ne peut être maîtrisé que passant par lui devient wajib. C'est pour cela que la langue arabe est donc incontournable pour tous les toulab et les ilm. Si tu veux vraiment faire un chemin dans la da'wa, il te faut la langue arabe. Mais s'il n'y a pas la langue arabe, c'est difficile. Tu peux toi rester quelqu'un qui suit les autres. Inch'Allah, tu t'en sortiras. Mais si tu ne connais pas la langue arabe, quelle est la langue avec laquelle tu vas apprendre le usul al-fiqh? Il faut la langue arabe. Et il faut le usul al-fiqh. Et le usul al-fiqh, dans le usul al-fiqh, il y a des chapitres, il y a des abwab devant qui vont nous amener à comprendre. Il faut comprendre aussi la langue arabe encore. Et dans le usul al-fiqh, il faut comprendre la langue arabe pour mieux comprendre la religion. Les enseignements dans le usul al-fiqh est très délicat en matière de religion. Il n'y a pas de prédicateur qui soit mutamakkin, très calé dans la religion, sauf qu'il maîtrise les usul. Les usul. Et si tu ne maîtrises pas les usul, tu vas juste faire ce qu'on appelle le taqlid, ou bien, c'est-à-dire, tu vas juste écouter ce que les autres ont dit, tu mets en pratique. Parce que tu ne peux même pas comprendre le développement, la démonstration, l'analyse d'un savant. Parce que le savant, quand il fait une analyse, il se base sur les masai, le souliya, et les kawaïd, le souliya. Alors toi, tu ne peux pas le comprendre tant que tu n'as pas fait le usul al-fiqh. Et les kawaïd fiqh, le usul al-hadith, le usul al-tafsir. J'ai dit. Alors, le usul al-fiqh, a donc commencé quand? À l'époque des Sahaba, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète était le marji', la référence. Et à chaque fois qu'il y avait une situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam délibérait. Il le tranchait, il le arrangeait, et c'était déjà comme la solution, c'est la solution complète. Mais après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la référence? C'est le Coran et la Sunna. Et les kibar sahaba, les grands sahaba, qui sont appelés à faire comprendre les textes aux gens selon la sagesse qu'ils ont pris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les récits du prophète, les applications que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a données à des situations, et ils pouvaient donc se baser sur ça pour arranger et orienter les autres. Le usul al-fiqh existait donc dans la manière de parler et dans la manière de comprendre les gens. Pourquoi? Parce que la prophétie venait d'être révélée et les gens avaient encore la compréhension propre et il n'y avait pas trop d'ambiguïté. Parce que la source, elle est encore propre. Mais plus le temps va passer, la source pourra accepter, admettre certaines difficultés et ça va amener les gens à développer des méthodes de compréhension au fil du temps. Ce qui fait donc que le usul al-fiqh ou le usul al-mustalah al-hadith, tous les usul existaient avec le prophète et ses compagnons. Mais après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que les premières générations sont passées et que les savants parlaient, on comprenait dans leur langage, le istinbat directement, n'est-ce pas? Alors, la première personne à écrire sur le usul al-fiqh comme une discipline, comme une science, ce fut l'imam Shafi'i. Naam, l'imam al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i, le grand savant du hadith et du fiqh. Naam, il fut un grand savant du hadith et du fiqh. Il s'agit de Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, qui fut parmi les élèves d'Imam Malik. Naam, il est décédé en l'an 204 de l'Hégire. Rahimahullah. Il va donc écrire un livre appelé Ar-Risala. Ar-Risala. Dans ce livre Ar-Risala, il intitule les certains kawaïd hein, sur le fiqh. Imam Shafi'i, rahimahullah, était très connu dans son intelligence. Il était très près, quelqu'un de très calé, il maîtrisait facilement, il comprenait facilement, ce qui faisait donc de lui un imam qui a géré son époque dans le ilm al-fiqh. Dans le fiqh et le soul, dans le hadith et le soul, bref, min aïmat al-arba, il fait partie des quatre imams des écoles de jurisprudence connues. Naam. Ici, il faut noter que les imams des écoles de jurisprudence n'ont pas été écoles de jurisprudence parce qu'ils ont créé quelque chose là. La différence entre eux et bon nombre de savants parmi eux, qui étaient même peut-être plus qu'eux, c'est que les élèves ont vraiment écrit leur fiqh et leur science. Quand tu entends parler d'Abu Hanifa, rahimahullah, de l'imam Malik, rahimahullah, de l'imam Shafi, rahimahullah, de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, non, il y avait d'autres, peut-être même plus mieux encore que ceux-ci, mais sauf que le ilm, les enseignements que ceux-ci donnaient, étaient beaucoup plus rédigés par les élèves. Ce qui fait que leurs récits sont restés comme ce qu'on appelle les fatawas aujourd'hui. On trouve donc leurs fatawas nombreux, alors qu'il y avait leurs contemporains qui étaient meilleurs qu'eux. Naam, il y avait les Soufiane al-Sawri, à l'époque, Abu Amr al-Uzaï, naam, de la génération des gens morts en 160, 165, n'est-ce pas? Tu trouves les Layth ibn Sa'd al-Masri, contemporain d'Imam Malik. Si bien que Imam Shafi'i dit, Layth ibn Sa'd était même plus fakir que Malik. Mais ça, il n'a pas eu de mazhab. Pourquoi? Juste parce que ça n'a pas été écrit. Ces paroles, ces enseignements n'ont pas été très rédigés. Alors que Imam Malik, Imam Dar Hijra, ces enseignements étaient très rédigés et beaucoup plus organisés par ses élèves. Ce qui fait la différence d'un imam, d'un alim à un autre. Sinon, ils sont nombreux. Alors, Imam Shafi'i fut donc parmi ceux-là qui ont écrit dans le sol, le fiqh. Il a donc écrit sous forme de chapitre, hein, Farat pas. فدون في هذا الفن وكتب في هذا الفن فبوب على الأبواب ورتب على الفصول والمسائل et c'est comme ça que il a donc arrangé le usul en bab et en fusul et en masail et l'ont suivi après lui bon nombre de savants parmi lesquels le célèbre Abu Ma'ali Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-Juwayni. Et nous voulons ici tomber directement sur l'auteur en donnant qui est l'auteur. Non. L'auteur de ce livre appelé Al-Waraqat, il s'agit du célèbre imam parmi les célébrités de l'islam au 5e siècle. Il se nommait l'imam al-Jalil Abu al-Ma'ali, Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-Juwayni. Il est décédé en l'an 478 de l'Égypte. Il est décédé en l'an 478 de l'Égypte, c'est-à-dire au 5e siècle. Non? Au 5e siècle. 400, 61, c'est dans 500. Non? On compte les siècles quand ils sont dit en l'an 300, 300 quelque chose, on monte 1 à 300, ça donne 400. Ça donne 4, le 4e siècle. Donc Abu Ma'ali al-Juwayni, il est du 5e siècle, vers la fin du 5e siècle. On le surnommait aussi Imam al-Haramain. Imam al-Haramain. Parce qu'il est passé par la Mecque et remonté par Médine, où il a fait son temps, il est fatwa. Inch'Allah, nous allons arriver là-dessus. Il est donc l'auteur de ce livre appelé Matanu al-Waraqat. Et c'est un livre très condensé, mais très riche et lourd aussi. Naam. Juste pour que ça serve le talib al-ilm à bûcher et être sur les rails des savants. Parce que c'est ça le rôle des Mukhtasarat. Les petits livres ont pour objectif faciliter l'appréhension, la compréhension de la chose chez le talib al-ilm, surtout le débutant. N'est-ce pas? Il se positionne sur les rails de la connaissance et il pourra maintenant développer avec les mutawalat. Donc c'est pour ça que le principe, comme on dit les savants, dans la recherche de la science, c'est commencer par les mukhtasarat. Commencer par les al-mukhtasarat, les petits livres. Ayant bûché les petits livres, on va maintenant évoluer vers les al-mutawalat, les grands livres. Mais de nos jours, les gens font l'inverse. Les gens touchent les mutawalat et ils laissent les mukhtasarat. Or, le ilm est dans les mukhtasarat, les petits livres condensés. Et c'est ça que les savants à l'époque avaient compris, que l'accès parfois à des gros livres aux étudiants, c'est difficile. Ils ont fait ce qu'on appelle le mukhtasarat. Et quand l'enfant bûche, un jeune bûche le mukhtasarat, il est maintenant facile pour lui de comprendre les mutawalat et les paroles même des savants. Naam, c'est la raison pour laquelle nous commençons par la mémorisation des livres comme Warakat dans le Usul al-Fiqh, ou bien Nukhbat al-Fiqh dans le Mustalah Hadith de Hafiz ibn Hajar, ou bien les Nawakit. Le Nawakid de l'Islam, dans la Tawhid, Nawakid de l'Islam, Usul al-Salasa, Kitab al-Tawhid, les petits livres. Naam, les Umdat, comment on appelle encore, Aqidah al-Tahawiyya, Aqidah al-Wasatiyya du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, n'est-ce pas? Naam, et bon nombre de petits livres, afin qu'ayant bûché cela et compris un peu, on pourra même toucher au shuruh, les commentaires. Donc, avant d'entrer dans la bibliographie de l'auteur, rahimahullah, il est à noter que l'usul al-fiqh a traversé des moments. Bien que ce soit une science très capitale en islam, et au début de l'islam, c'est-à-dire vers le 3e, 4e siècle, il y a eu trop des pensées de la bid'ah. Les bid'ah ont beaucoup émergé, des innovations. Et ces innovations étaient beaucoup plus marquées par les courants philosophiques. Les courants philosophiques de Qadariya, les courants philosophiques de Jabariya, qui ont influencé le dogme. Et il y a aussi les courants philosophiques qui ont influencé même dans le usul al-fiqh. Parce que non seulement le usul al-fiqh était une science qui amenait les gens à comprendre les fondements du fiqh, alors certains mantiques, ilm al-kalam ou al-mantiq al-yunan, se sont infiltrés. C'est-à-dire que les philosophies grecques et autres se sont infiltrés dans les connaissances du fiqh, où les gens ont dit des choses déplacées, qui avaient parfois tendance à influencer sur la compréhension des textes coraniques, et en déjouant les sens. Alors, ويحسن التنبيه أن علم أصول الفقه وعلم أصول اختلط بمنهج المتكلمين وآرائهم بل لهكه شيء من منطق اليونان وهذا واضح في كتاب البرهان لأبي المعالي الجويني. Quand tu lis les livres des prédécesseurs tels que Imam al-Haramain Abu Mu'ali al-Juwayni, ces livres avant, dans ses débuts de l'usul al-fiqh, tu constates que parfois il mélangeait avec un peu de mantiq al-yunani, avec un peu de la littérature, la philosophie grecque. Naam. Et tu vas aussi trouver en dehors de lui, tu vas trouver ceux qui sont venus après Abu Ma'ali al-Juwayni, comme l'imam al-Ghazali. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, lui aussi, il est décédé en l'an 505 de l'Égypte. Il est décédé en l'an 505 de l'Égypte et il a beaucoup écrit dans l'islam. Surtout, c'est des gens, ici je vous parle de l'imam al-Haramain, Abu Ma'ali al-Juwayni, nous utilisons son livre, et l'imam al-Ghazali, eux qui ont beaucoup parlé dans le sur le fiqh, mais sauf qu'ils ont eu deux phases de vie. Ils ont eu deux phases de vie. Une vie où leurs paroles étaient beaucoup plus influencées par le ilm mantique, la science philosophique, naam, al-falsafa, n'est-ce pas, et ilm al-kalam. Et une phase de leur vie où ils ont renoncé à tout cela et sont revenus sur le manhaj de salaf, dans la akida et même dans le rasoul. C'est la raison pour laquelle Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a fait allusion à cela dans l'Iqtida Surat al-Mustaqim, où il a éclairci parfois la position d'Imam Ghazali, qui avant était parmi les savants de la Bida, qui ont été influencés par le ilm al-kalam, ainsi que Abu Juhayn et Abu Ma'ali al-Juhayni, qui se sont revenus, qui ont fait retour, qui sont revenus sur les rails de Al-Sunnah ou Al-Jama'a, ou Sana'atile, Inch'Allah. C'est juste les tanbihats qu'on vous donne pour que vous soyez, pour que vous soyez préparés. Et que, en étudiant le sol, le fait que vous ne tombez pas sur certains aras, certains points de vue et philosophiques qui ont, sont infiltrés par l'inadvertance dans la dans cette chose-là. Naam. Et parmi les livres qui sont beaucoup plus intéressés dans le ilm usul al-fiqh, donc vous pouvez trouver dans le ilm usul al-fiqh, nous avons par exemple Ar-Risala de Imam Shafi'i, qui est parmi les tout premiers livres écrits dans le usul al-fiqh, n'est-ce pas? Nous avons aussi Al-Mustafa de Imam Ghazali. Nous avons aussi par exemple comme Al-Warakat de Abu Ma'ali al-Juwayni, n'est-ce pas? Nous avons aussi comme dans les livres écrits dans le sur le fiqh, il y en a beaucoup, mais ce qui me vient à la mémoire, comme le sur le fiqh du célèbre Cheikh Mohamed Lamine Al-Shinkiti, l'auteur de Adwa'ul Bayan. Naam, Mohamed Lamine Al-Shinkiti, l'auteur du tafsir Adwa'ul Bayan, Mudakkiratun fi usul al-fiqh. Il y a aussi Imam, il y a aussi Tadkira fi usul al-fiqh de, non, ça c'est pour Mohamed Lamine Al-Shinkiti, et aussi usul al-fiqh écrit par le célèbre savant du Yémen, comment dire encore, à l'époque de l'auteur de Subul Salam, comment il s'appelle encore? Non. Imam Sana'ani, c'est l'auteur de Subul Salam, n'est-ce pas? Son contemporain, il y a Imam Ash-Shawkani, il a écrit un livre dans le Subul. Dans le sur le fiqh. Et avant eux, il y a bon nombre de savants qui ont écrit dans le sur le fiqh. C'est la raison pour laquelle on a dit que les savants à l'époque ont écrit, et même les contemporains, Question de alléger et la tâche au tout lab de l'ilm. Non, pendant que nous parlons de l'auteur de ce livre, مؤلف هذه الورقات هو الشيخ الشافعية أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني نسبة إلى الجويني نسبة إلى جويني الأوتور دو سوليفر دون لان دي شيوخ دي المذهب الشافعية أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني إلى la mazhab shafi'iyya, yani mujtahid dans la mazhab shafi'iyya, ceux-là qui ont écrit beaucoup dans la base de l'imam Shafi'i, Nisbatun ila Juwain, min Nawani Nesabour. C'est une contrée vers Juwain, c'est une contrée vers Nesabour. Il est né en l'an 419 de l'Égypte. Il est né en l'an 419 de l'Égypte. Watafakaha ala walidihi fisiba. Il a beaucoup appris chez son père dans son jeune âge. Il a beaucoup appris par son père chez son jeune âge. Et ça, c'est la qualité que la plupart des savants à l'époque avaient. Quand tu trouves la plupart des savants dans leur bibliographie, on dit toujours qu'ils ont commencé par leurs parents. Ah là, Mustafa de Minhumada. On peut profiter de ceci que la plupart des savants sont les enfants des savants. La plupart des savants sont des enfants des savants. Leurs papas, leurs parents les ont donné la base et ils ont continué ailleurs. Donc, ça, c'est pour aussi dire que le meilleur, le parent de quelqu'un reste son meilleur enseignant, surtout Isa Tafakka. Lorsque son parent a été parmi les ulémas. Non. Donc, il a appris sur son parent dans son jeune âge. Thumma rahala ila Bagdad, thumma ila Makka, wa jawara biha arba sunin. Il a, après cela, voyagé à Bagdad, après son jeune âge à Nisabour. Son premier voyage pour la recherche de la connaissance fut à Bagdad, puis Makka, et puis les environs où il a passé 4 ans. Ici, on comprend que l'on ne peut pas rester sur son parent et devenir savant. Non, parfois, on étudie chez son parent, mais on est parfois obligé d'étudier chez un autre enseignant et surtout encore voyager à la recherche de la connaissance. Et le fait de rester chez un savant, ça limite le temps de l'aide. C'est la raison pour laquelle la plupart des savants dont vous les voyez aujourd'hui, on parle d'eux et leur ilm est Mubarak et leur ilm est Wasi', c'est qu'ils ont eu beaucoup d'enseignants. Donc le fait que un talib al-ilm reste sur un savant seulement, parfois ça le limite aussi, il n'arrive pas à trop évoluer. Non. Et surtout qu'il est question de parcourir les savants reconnus dans l'islam et la sunna, reconnus dans la mise en pratique de la sunna. Mais quant à ceux dont leur ilm pourra t'influencer et tu finis par embrasser certaines idéologies égarantes, il faut donc se méfier. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de savants aussi qui ont étudié chez des personnes qui ont des idéologies, des afkar munharifa, comme dans le Mu'tazila, comme des points de vue Mu'tazila et des points de vue Ash'ari, mais alhamdulillah, ils sont restés dans la sunna et ont soutenu la sunna. Naam. Et ici, on peut aussi comprendre une chose. On peut en tirer profit que la connaissance, on va vers elle, mais on ne reste pas rien. On va vers la connaissance, on va à la recherche, on ne reste pas la connaissance rien. Si vous voyez quelqu'un qui est resté chez lui, la connaissance, on l'a enseigné tout. Il peut avoir la connaissance, cette connaissance aura peu de bénédictions. Donc quand on a souffert par rapport à la connaissance, on est beaucoup plus prêt à l'enseigner encore. Mais quand on n'a pas souffert pour avoir la connaissance, difficilement on la transmet. On n'arrive même pas à connaître l'importance de la science. La connaissance, on va vers elle, mais elle ne vient pas. Non? Et ça, c'est là, c'est le procès. Ça, c'est fait l'unanimité chez tous les savants, même les savants de la religion ou les savants qui ne sont pas les savants de la religion. Toute science, on va vers elle pour l'avoir. On ne reste pas elle vient. Naam. Wa dhahaba ila al-Madinati fa afta wa darasa fa luqiba bi imam al-Haramain. Après ça, il est encore allé à Médine, où il a fait enseigner, il a fait la fatwa là-bas. Il avait même atteint le niveau de la fatwa. Et on l'a même surnommé imam al-Haramain, l'imam des deux Haramain, des deux lieux saints, Makka et Madina. ثم عاد الى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك المدرسه النظاميه après les rentrer maintenant à dans son village à Nisabour où l'élite le chef les autorités là-bas là donc conçu une école madrasa nizamiya فدرس فيها وكان يحضر دروسه اكابر العلماء il a donc enseigné à Nisabour au point où certains grands savants même de Nisabour venaient assister à ses cours. Pourquoi? Parce que Itarafu, Lohubil Fadl, ils ont reconnu son titre. وكان أبو المعالي في بداية أمره على مذهب أهل الكلام في باب الأسماء والصفات من المعتزلة والعشائرة، وكان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم المعتزلي. Il faut noter, et c'est très important, que Abu Ma'ali al-Juwayni, dans ses débuts, il fut dans la mazhab des gens du Kalam, mazhab al-Kalam, c'est-à-dire les gens qui étaient influencés par la philosophie, les courants philosophiques. Min bab al-asma wa sifat, dans le nom attribué d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est parmi les chapitres où les savants dérapent souvent beaucoup. La plupart des savants dérapent sur les bab al-asma wa sifat parce que ça crée souvent trop d'ambigu. Et là, les mu'tazila et les asha'ira ont trop de points de vue contradictoires au point de vue de al-sunna wa jama'a. Ils font le ta'wil des sifat ou bien encore l'ablation des sifat. Ils font le ta'wil, ils font le ta'wil et le ta'til. C'est-à-dire soit ils déjouent l'essence des sifats d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ils font encore l'ablation, ils renient les sifats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces courants philosophiques ont influencé dans l'islam et ont créé ce qu'on appelait les Mu'tazila et les Asha'ira. Abu Ma'ali al-Juwayni, dans ses débuts, était beaucoup plus influencé par la fikra, l'idéologie des Mu'tazila et des Asha'ira. Et il lisait beaucoup plus les livres d'Abu Hashim al-Mu'tazili. Il lisait beaucoup plus le livre d'Abu Hashim al-Mu'tazili. C'est pour cela qu'un talib al-ilm, il doit observer les livres qu'il étudie. Les livres des gens qui sont parfois influencés dans l'ilm kalam, dans les falsafas, dans la bid'a, le tasawuf, il faut parfois éviter ce genre de savants-là. Parce qu'à force de trop les lire, tu peux finir par copier et embrasser leur idéologie, être influencé par leur idéologie. Alors que les savants de la sunna, il faut beaucoup lire leur livre, surtout concernant la akida et autres. Même dans la luga, il faut parfois faire attention. Naam, qu'allait le ma'rifat bil athar, il avait pour connaissance sur le ilm de athar, le ilm hadith. Lakin, il raja an dhalika ila madhhab as-salaf. Par la suite, alhamdulillah, raja ila madhhab as-salaf. Il est retourné sur le point de vue des salaf, des plus précurseurs, sur la akida, le bab de Asma wa Sifat. Il a regretté tout ce qu'il disait et il a suivi dans le mazhab des salaf. Ainsi qu'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Parce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah est parmi ceux qui viennent après les Abu Hamid al-Ghazali et les Abu Ma'ali al-Juwayni. Ils viennent dans la génération qui vient après eux. Parmi les savants du 7e siècle, parce qu'il est né il est mort dans les 666, un truc comme ça, 660 quelque chose. Il est mort dans les années 660 quelque chose. Non. Et surtout, ils ont mentionné les propos de l'imam Abu Ma'ali al-Juwayni qui montre qu'il a fait retour et a abandonné le point de vue des Mutakallimin et des Mu'tazila, n'est-ce pas? Et de Sha'ira, il est revenu dans la mazhab des salaf, et on a mentionné ses paroles lui-même qu'il a dit. وقد ورد أن عن أبي معالي نفسه ما يدل على رجوعه حيث صرح بعقيدته في باب الأسماء والصفات وقال في رسالته النظامية والذي قال رحمه الله والذي نرتديه رأيا وندين الله به عقيدا اتباع السلف الأمة فالأولى الاتباع والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. Cette parole de Abu Ma'ali dit, c'est donc, j'accepte comme point de vue et j'adore Allah subhanahu wa ta'ala avec dans mon akida, c'est le même point de vue que les salaf avaient. Ceci montre donc qu'il avait abandonné des disputes avec le dispute et le point de vue que les Mu'tazila et les Asha'ira avaient. Naam. Abu Ma'ali al-Juwayni, il a donc écrit beaucoup de livres, parmi lesquels Al-Waraqat, et il a bon nombre de livres et bon nombre de paroles dans le fiqh islam. Abu Ma'ali est donc décédé en l'an 478 de l'Hégire à Nisabour. Naam. Imam Abu Ma'ali al-Juwayni, ou bien nous allons aborder cette fois-ci Mabadi al-Mulfiq, al-Musul al-Fiqh. Mabadi veut dire les pionniers. Dans chaque spécialité, ou bien dans chaque ilm, nous avons ce qu'on appelle les Mabadi. Le mabadi, c'est quoi? C'est ce que on peut dire. Le mabadi veut dire 1. La définition. 2. Cette science s'intéresse à quoi comme sujet? Ça traite quoi? 3. Quels sont les fruits escomptés de cette science? En apprenant cette science-là, qu'est-ce qu'on en tire comme profit? 4. Cette science, quelle est sa place dans la charia, dans la théologie, au sein son mérite, le mérite de cette science. 6. Qui a mis sur pied cette science? Ismuhu, le nom même de cette science, comment est-ce qu'on la reconnaît dans la théologie? Istimdaduhu, où est-ce qu'elle puise ses racines? N'est-ce pas? Et à la fin, à 9, 9e point, hukmuhu, la sentence de cette science, est-elle obligatoire ou facultative? Et 10, qu'est-ce que cette science traite? Masa ilhu. Qu'est-ce que cette science traite? Mais certains savants, en dehors des 10, ont augmenté un 11e qui appelait Sharfuhu, la place honorifique de cette science. Donc, nous allons en bref, rapidement, parcourir les mabadi de cette science-là. Les savants, certains savants ont rassemblé cela en disant Inna mabadi kulla ilmin ashra. Inna mabadi kulla ilmin. Inna mabadi. Inna mabadi kulla ilmin ashra. Al-haddu. Les mabadi de chaque science sont 10. Al-haddu. La définition tarif. Wal-maudu. Ce que ça traite. Summa samara. Et les fruits escomptés, les fawaïd de cette science-là. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Le nisba, où est-ce qu'elle se puise? Wa fadlu, son titre, son à sa place. Wal wadi', et qui a mis sur pied cette science? Wal ism, le nom de cette science, al istimda de hukm shari', et où est-ce qu'elle prend son appui? Naam, masa'ilun wal ba'du bil ba'd iktafa. Les masa'il, ça fait 10. Certains savants se sont arrêtés ici. وَمَنْ دَرَ جَمِيْ حَذَ شَرَفَ. Quiconque a connu tous les 10 ci, les 10 points ci, peut atteindre le sharaf, l'honneur. Ça veut donc dire que toute science, il faut connaître ça, les points, les 10 points ci. Les 10 points ci te permettent de comprendre à quoi tu as affaire. Non. Alors, مُقَدِّمَةُ الْوَرَقَاتِ. Je vais faire une lecture et vous allez suivre. نعم كم فوز عليهم كم فوز عليهم ورزي مقدمة الورقات يقول الإمام أبو معالي الجويني رحمه الله مقدمة الورقات هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والثاني الفقه. Il dit, هذه الورقات. ورقات جمع ورقة. Et nous avons dit que ورقات a deux معاني, n'est-ce pas? A deux جمع, n'est-ce pas? ورقات et أوراق. ورقات et أوراق. جمع ورقة. Il dit, هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول. Et, c'est-à-dire, معرفة أنواع من المسائل التي من المسائل معرفة أنواع من المسائل ce livre appelé ورقات renferme des connaissances concernant quoi? C'est un chapitre d'usul al-fiqh, n'est-ce pas? Il dit ici فصول معرفة الفصول. Et les fusul, jam'u fasl. Ça veut dire qu'il a classé ça en fusul. Il a classé cela en fusul. Non. Wal fusul, jam'u fasl. Ouwa, kita'atun minal bab. Et le fusul, c'est le jam'u de fasl. Ouwa, kita'atun minal bab. C'est une pièce ou un fragment de bab. Ça veut dire que les savants à l'époque classaient les choses soit en abouab ou en fusul. Et ils aimaient souvent mettre bab kada. Et en dessous de bab, faslun. N'est-ce pas? Naam. Jai. من أصول الفقه et من هذا الفن المسمى بأصول الفقه. Des chapitres concernant le, cette science appelée أصول الفقه. وذلك معلف من جزئين. Il parle ici, il fait allusion à ci, quand il parle de جزئين, بمعنى الجزء الأول مضاف, والجزء الثاني مضاف إليه, مضاف إليه, n'est-ce pas? Donc quand il dit أصول الفقه, أصول الفقه, نعم, أصول الفقه, ce groupe de mots est مضاف, et مضاف إليه, كما عرفتم في اللغة. نعم. Quand il parle de مفردي, بإعتبار مفردي, c'est-à-dire, hein, cette définition en fonction de ces deux, معناها, c'est-à-dire, أصول à part et فقه à part. Il va donc nous expliquer أصول à part et فقه à et à part. Et après, la définition dans son sens global, si on dit أصول الفقه, ça aussi, ça, on va définir ça non? Donc comment? On va donc définir cela comme comment? Alors, il dit fa تعريف أصول الفقه بإعتبار مفرده. نعم. تعريف أصول الفقه بإعتبار مفرده. Il dit فالأصل ما يبنى عليه غيره. فالأصل ما يبنى عليه غيره. والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذا dans la définition de أصول الفقه. Premièrement, il faut qu'on comprenne que l'usul le fiqh, c'est quoi? Sachez, l'usul le fiqh, yani l'usul le fiqh, yabahathu fil adillati, yabahathu fil adilla. L'usul le fiqh, lui, il recherche à comprendre le dalil. L'objectif de l'usul le fiqh, c'est de faire comprendre le dalil. Fala yabahath fi arkani salah. Tu ne verras pas l'usul le fiqh, comment tu as été demandé les arkani salah, c'est combien? Et wajibat al-salah, c'est comme là. Ou a yabhat an adillah, dalil al-salah, dalil al-hajj. Mais lui n'entre pas dans la démonstration du hajj. Non. Même les nawakid de wudu, il ne s'intéresse pas aux nawakid de wudu, mais il s'intéresse aux adillah qui régissent les nawakid de wudu, qui régissent le hajj. Non, vous verrez le cas. Oui, n'a pas yabhat an adillah. أن أدلة ذلك المسائل أو تلك المسائل. الوصول للفقه يشرح plutôt le dalil, étudie et comprend plutôt le dalil de ces مسائل là. N'est-ce pas? نعم. Lui va donc rechercher à comprendre cette مسألة là, cette chose là. Est-elle haram ou halal? Est-elle mubah, makruh, wajib? Ainsi de suite. C'est ça que le وصول للفقه cherche à comprendre. Donc la définition de الوصول للفقه بإعتبار مفرده. إذا الأصول سيوندي الأصول سيجمع أصل نسبة. الأصل ما يبنى عليه غير. Donc الأصل هو الأساس. الأصل هو الأساس. La fondation. Si on parle de أصول الشجرة, إذا قلنا أصول الشجرة بمعنى la fondation, les racines de l'arbre. أصول البيت بمعنى أساس البيت. La fondation. Ça veut dire que أصول الفقه, ça veut dire la racine du fiqh, ou la fondation du fiqh. Fal usul ou fal asru ma yubna alayhi ghayru. Dans la langue arabe, donc, il faut donc comprendre que le asru, c'est quoi? C'est ce dont on va construire quelque chose sur elle. Naam. Wal far'u ma yubna ala ghayri. Et le far'u, c'est le contraire de asru. C'est ce dont on va construire sur l'autre. Ça veut dire que le usul est la fondation. Et la fondation. Le far'u, le fiqh est comme quoi? Ce qu'on va fonder, on va construire sur la fondation. Ça veut dire que si ta connaissance, c'est un fiqh sans usul, ce serait comme une maison sans fondation. Est-ce que ça va résister? Et si on parle d'un arbre, est-ce qu'on peut imaginer un arbre sans fondation? C'est qu'elle est suspendue. Elle est suspendue, n'est-ce pas? Imam al-Haramayn, Abu Ma'ali al-Juwayni, rahimahullah, ils veulent nous faire comprendre que le aslu, c'est-à-dire que le usul du fiqh est pour le fiqh comme une fondation. Et le fiqh est comme la maison qui est placée sur la fondation. Et qu'on ne peut pas imaginer un fixe sans au sol. Tout comme on peut imaginer une maison sans fondation. Et que veut dire le fiqh alors maintenant? Wal fiqh ma'rifatul ahkam al-shar'iyya. Le fiqh est dans la connaissance des lois de la charia. C'est la connaissance des textes de la charia. Surtout qu'il y a des textes allati tariquha al-ijtihad. Donc, la compréhension de ces textes-là émane d'un ijtihad, l'effort juridique. C'est ça qu'on appelle les mujtahidoun. Les mujtahidoun, c'est ceux-là qui, face à une situation, vont trouver un dalil qui va gérer cette situation-là, qui va nous faire comprendre cette situation-là et va nous orienter dans la pratique de cette, la conduite à tenir dans cette situation. On appelle les mujtahidoun. Le mujtahid est donc celui qui connaît le fiqh, n'est-ce pas? Et il ne peut connaître le fiqh sans le usul. Donc, le fiqh est dans la connaissance des lois de la charia, dont dont l'arrivée à cette connaissance-là, c'est le ijtihad. Pour ressortir la sentence de telle chose, il faut que le alim fasse un ijtihad dans la compréhension des textes qui régissent cette loi-là, n'est-ce pas? Non. Mais quand il y a un texte qui est clair sur le sujet, il n'y a plus de ijtihad. Mais quand le texte peut être à équivoque et peut être compris de plusieurs manières, ça se rend dans le mujtahid, se rend dans le faqih, n'est-ce pas? Non. هذا التعريف الأول لوصول الفقه هو تعريف باعتبار مفرده. Cette définition donc de l'usul al-fiqh est une définition en fonction de ces pièces composantes de l'usul et de asl. نعم. Et la plupart des savants ont toujours pris pour exemple ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها يعني أصل الشجرة ثابت. La racine de cet arbre est bien dans la terre, n'est-ce pas? Ça, c'est une parabole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dans le Coran al-Karim. Il a pris l'exemple d'un arbre dont ses racines, asluha thabitun, wa far'uha, et ses fruits sont sur le ciel, tu'ti ukulaha kullahin, qui donne ses fruits à tout moment. Pourquoi? Parce que la racine est bien plantée, dans un bon terrain. Les savants de l'usul al-fiqh, ils utilisent parfois ce verset pour démontrer que le usul est pour le fiqh comme les racines d'un arbre pour un arbre. Et même les savants de la Aqidah utilisent aussi ce même verset pour démontrer que le usul, le iman, parce que nous parlons de iman, le usul, le iman. Il y a une arcane de l'iman, c'est combien? Sitta. Antoumina billah, malaikati yukutu yurusul. Hadiya usul l'iman. Et quand les usul de l'iman sont bien assis, on voit l'iman. Quand l'iman de quelqu'un est fondé sur un bon asl, n'est-ce pas? On voit les fruits comment? La mise en pratique, un bon akida, un bon comportement, tout ça. N'est-ce pas? Donc, les savants de l'akida aussi apportent parfois ce verset pour démontrer que plus on a un bon akida, on va avoir les bons actes, les bonnes œuvres. On ne peut donc pas avoir un bon akida et on a les mauvais comportements, les mauvais fruits. Un arbre ne peut donc pas être bien implanté dans un bon sol et qui est supposé donner de bons fruits, mais on trouve des fruits amers, des fruits acides, des fruits qui ne sont même pas bons à manger. La touti ukulaha kulla hinin bi'ibni rabbiha, qui donne ses fruits à tout moment par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit wayadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Allah donne des paraboles comme ça aux gens afin qu'ils méditent. Donc le aslu d'un arbre est la fondation de cet arbre, n'est-ce pas? Sans elle, l'arbre n'est pas bien implanté. On reconnaît un arbre bien implanté par sa racine parce qu'elle puise bien les éléments du sol, n'est-ce pas? C'est la même chose avec l'aqida. Et dans le sol, le fiqh, le asl, la racine est le asl qui va porter le far'a. Comme le sol est le asl qui va porter le fiqh. Mafoum? Mais dans le. Si on définit dans le sol, le fiqh, le asl comme étant ma'yubna alayhi ghayru. Ça c'est la définition, ça c'est ce qu'il faut noter. Al-aslu ma yubna alayhi ghayruhu. Wal-far'u ma yubna ala ghayri ala ghayrihi. C'est que le aslu est la fondation et le far'u est l'édifice sur la fondation. Donc si on revient, on pourrait définir encore le aslu comme étant quoi? Le aslu peut avoir encore d'autres synonymes. C'est-à-dire que le mot aslu dans la charia, tu le retrouveras. Il ne veut pas seulement aussi dire la racine. Non? La première définition de astre, c'est que c'est une racine, c'est une fondation. N'est-ce pas? C'est un fondement. Mais, parfois, tu le retrouveras dans les textes juridiques et les paroles des savants. Il ne veut pas seulement dire la fondation ou le fondement, n'est-ce pas? Il veut aussi parfois dire le dalil. Non? Le dalil. Kakolik. Aslouzou bisoum, kolitala. Tu entends parfois les savants dire Aslouzou bisoum, kolitala. Maintenant, ici, il va t'apporter le asl comme étant le dalil. Il veut dire le dalil. Dalil au jour du siyam, kolo ta'ala, yawa ledina, amanu kutiba alaykumu, siyam. Il n'a pas dit, wa asl. Il n'a pas dit dalil. Dalil au jour du siyam. Il a dit asl au jour du siyam. Le fondement qui rend le siyam obligatoire. Non? Wa minhu usulu al-fiqh et adillatuhu. Si on parle de usul al-fiqh, on parle aussi de adillah du fiqh. Ça veut dire le mot usul a pour synonyme dalil. Si on dit usul al-fiqh, on va aussi dire adillah al-fiqh. Ça peut aussi se comprendre comme ça. Non? Le mot usul peut encore venir dire qa'idatu mustamirra, un principe fondamental. Al-qa'idatu al-mustamirra, al-mustamirratu. Kakolina, ibahatul maytati lil-muttari على خلاف الأصل إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل لأن الأصل في الميتة التحريم n'est-ce pas si on dit que الأصل في الميتة التحريم ça veut dire quoi الأصل في الميتة التحريم هذه قاعدة مستمرة c'est un principe fondamental tu dis quoi que la viande de tout ce qui est mort et étouffé est haram. La viande de tout ce qui est mort et étouffé est haram. N'est-ce pas? Alors si je dis maintenant, « Ibahatul maitati lil muttari ala khilafil asr » Le fait que ce qui est mort et étouffé soit permis pour celui-là qui est dans la contrainte est le contraire du principe fondamental. Principe fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe fondamental dit que la viande de ce qui est mort et étouffé est haram, sauf dans le cas de al-motar, celui qui est dans la contrainte, celui qui est dans la difficulté, parce que al-darura, tubihu, al-mahzura. Quand la contrainte vient, la difficulté vient, l'interdiction elle est élevée. Donc, le mot asl veut aussi dire al-qa'idatu al-mustamirra. Tu peux dire al-qa'idatu al-mustamirra tifikada. القاعدة مستمرة في لحم الميتة التحريم. كم تدي الأصل نسبة؟ نعم. donc الأصل بدي الدليل. ça veut aussi dire القاعدة المستمرة, le principe fondamental. ça veut aussi dire المقيس عليه. c'est-à-dire que dans le bab de qiyas, on utilise parfois le أصل. que dans l'analogie, on va prendre le أصل de celui-là qui ressemble au أصل de celui-ci pour lui donner un même حكم. C'est ça l'analogie, non? La comparaison. Hein? La comparaison qui consiste à prendre si les deux, si deux choses ont un même asl, alors que celui-ci a le hukum. C'est clair, mais celui-ci n'a pas encore de hukum. Comme ils ont le même asl, ils se ressemblent en... Non? Jade. Al-Maqis wa alayhi wa hadha fi bab al-qiyas. Hayth inna al-asl ahadu arkan al-qiyas. Parce que le asl est l'un des arcanes du qiyas. Et Inch'Allah, quand on va aborder le babou du qiyas, demain, plus tard, vous allez comprendre que le qiyas a ses arcanes aussi. Pour que qiyas soit qiyas, il faut que les arcanes soient respectés. Un, ils doivent avoir le même asl. Parce que s'ils n'ont pas le même asl, le même fond, alors ils ne peuvent donc pas être... Il faut qu'ils se ressemblent, n'est-ce pas? Pour avoir le même hukum. Non. Wa amma al-far'u فهو ما يبنى على غيره مثل فروع الشجرة فهي مبنية على أصلها وفروع الفقه مبنية على أصوله et le far'u comme pour dire le fiqh c'est ce dont on a fondé sur le asl comme les feuilles, les branches d'un arbre partent de la racine, n'est-ce pas c'est aussi comme ça que le fiqh part de son usul qui est son fondement, n'est-ce pas Non. Donc quand on revient sur le tarif, quand on revient Quand nous revenons sur le ta'rif, nous avons entendu l'auteur Rahimahullah, nous avons vu l'auteur Rahimahullah dire ma'rifatu. Ma'rifatu. Quand on dit ma'rifa, ça veut dire quoi? Ma'rifa, la connaît? La connaissance. Ma'rifa, ta'rif. Ma'rifatu. Non? El ma'rifa, c'est quoi? Ma, odirika, idrakan jaziman. El ma'rifatu, ma, odirika, idrakan jaziman. Une connaissance, c'est ce qu'on a acquis et on a appréhendé avec certitude. C'est-à-dire, une connaissance est donc quelque chose dont on a la certitude, on a connu avec certitude, qui n'admet pas un doute. Si je dis, j'ai la connaissance sur telle chose, ça veut dire, je connais parfaitement le début et la fin et tout ce qui comporte. Non? C'est pour ça que quand ça m'a dit, la définition de telle chose est ma'rifatu kada kada. Hein? Ça veut dire que la connaissance est profonde et détaillée de cette chose. Et donc, si on dit, ma'wa al-ma'rifa, al-ma'rifatu, huwa ma'udrika idrakan jaziman. Quand ma'rifatu anna salawatu khams, c'est comme par exemple connaître que les prières sont cinq chez le musulman. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vient de faire le tout sur ça? Non? Ou anna zina muharram, comme connaître que le zina est haram. Elle dit ma'rifa, inda al-muslimin. C'est connu, non? Non? Nahnu na'rif. Non? Nahnu nudrik. Idrakan jaziman anna salawat khams wa anna zina muharram. Et le ma'rifa est contraire au zan. Quand on parle de ma'rifa, son contraire c'est le zan. Le zan veut dire quoi? Je pense mais je ne suis pas sûr. Hein? J'ai une connaissance mais elle n'est pas certaine. Wa zan ma udrika ala wajhi rajin. Ma udrika ala wajhi rajin. Comme fi kathiri min masail fiqh. Le zan c'est quoi? C'est ma udrika, ce qu'on a connu à la wajih rajin, d'une manière où on a un penchant vers un côté qui montre que c'est clair, mais quelque part, il y a un autre aspect qui montre qu'on peut être à l'erreur. Hein? Ou bien, certains savants ont défini en disant que quoi? Tajwiz amreni la maziyat li hadima zaza wa shak. Non? A shak, comme on va voir plus tard, tajwiz amreni. Non? La maziyat li hadima al akhar. Le shak, c'est deux choses sont possibles. Il n'y a même, je n'arrive pas à faire la différence entre les deux. Mais le zone, c'est que entre deux choses bien connues, il y a un raj et l'autre est marjo. Je pense, et je suis fort certain, convaincu à 60 ou 75% que ceci est vrai. Mais entre-temps, les 30 ou 40% de l'autre montrent que ça peut aussi être faux, n'est-ce pas? Donc le zone veut dire qu'on n'est pas très, on n'est pas très sûr. Non? Donc quand on dit ma'rifatu, tu dois connaître le sens de ma'rifat. Parce que dans le sol, on s'amuse pas avec les alphas. Les alphas sont pesés, les mots sont pesés tels que parce que la charia ne s'amuse pas avec les alphas. Parfois, un hukum peut changer à cause d'un laps, d'un kalima seulement. Inch'Allah, on aura peut-être à parcourir ce genre de choses-là. Non. Quand il dit al-ahkam al-shari'iyya, al-ahkam al-shari'iyya, quand on parle d'ahkam al-shari'iyya, ça englobe deux types d'ahkam. Ahkam al-shari'iyya, c'est global. Mais dans les ahkam al-shari'iyya, nous avons ce qu'on appelle ahkam al-taklifiyya et ahkam al-wada'iyya. Les ahkam al-taklifiyya, c'est ce que nous avons, ils sont cinq, n'est-ce pas? Al-wajib. Wa. Al-wajib. Wal-haram. N'est-ce pas? Al-wajib. Wal-haram ou bien al-ma'zour. Al-mubah. Wal-makroub. Et quoi encore? Là, al-mandoub. Nous avons cité al-wajib. Après le wajib, il y a ce qu'on appelle al-mahzour. Al-wajib, c'est l'obligation, n'est-ce pas? Et al-mahzour, c'est le haram, n'est-ce pas? Et al-makrouh. Hein? Et al-mubah. Et enfin, le mustahab, n'est-ce pas? Les cinq, ici, on appelle ça ahkam al-taklifiyya. Maintenant, il y a deux qui vont s'augmenter, qui sont dans le ahkam al-wada'iyya. C'est pour ça que l'auteur, rahimahullah, il va nous parler plutôt des ahkam al-shari'iyya, mais à l'intérieur, on sait que c'est les ahkam al-shari'iyya sont scindés en deux. Taklifiyya wa wada'iyya. Et les ahkam al-wada'iyya, c'est des signes, c'est des arcanes qui sont des indices pour des choses naturelles, dans lesquels on saura si quelque chose est sahih ou quelque chose est farsique. N'est-ce pas? Il va arriver là-dessus. Donc, quand il parle d'arkam shari'iyya, nous avons par exemple al-wajib, ou bien al-wujub, suivi de al-mustahab, suivi de al-haram, suivi de al-makruh, suivi de al-mubah. Et alors que l'arkam al-wada'iyya, c'est al-sahih wal-fasid. Al-sahih wal-fasid. Et il dit allati tariquha al-ijtihad. Allati tariquha al-ijtihad. Dont le chemin est le chemin pour arriver à cette science-là, c'est le ijtihad, n'est-ce pas? Al-ijtihad, c'est quoi? Al-ijtihad, huwa badal al-juhd li idrak al-hukm al-shar'i. Huwa badal al-juhd li idrak al-hukm al-shar'i. C'est le fait de fournir des efforts pour entrer en connaissance d'une loi juridique. Entrer en contenant, hein, faire des efforts pour arriver à une loi juridique. Ça veut dire qu'il y a tout un panoplie, il y a beaucoup de textes devant toi, il faut faire la synthèse pour arriver au texte qui règle, qui traite ce sujet pour pouvoir l'exploiter. Ça, on appelle ça le ijtihad. Et celui qui est à ce niveau, on l'appelle le mujtahid. Et le ijtihad, le mujtahid, ce n'est pas n'importe qui parmi les savants. C'est le savant qui a un très grand niveau dans le fiqh et le usul, dans le hadith et le tafsir et le Coran. N'est-ce pas? Il a une connaissance très profonde des textes juridiques et une connaissance très profonde des fondements des textes juridiques. Et nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah. Les ahkam pour développer plus tard. Les ahkam shari'iyya qui sont de deux sortes, taklifiyya et wada'iyya. Voilà, wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Non, ce qui fait donc que la plupart des savants de la Aqida et du Manhaj d'Al-Sunnah al-Jama'a, ceux qui ont une profonde connaissance de la Aqida et de Fiqh et de Usul, ont aussi écrit pour mettre en exergue les erreurs, ces dérapages philosophiques qui ont influencé dans l'usul, le fiqh, à l'instar de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et bon nombre de savants qui sont venus après eux qui ont écrit dans l'usul, fiqh, à l'instar aussi de Cheikh Mohamed Lamine, Al-Shinkiti, Rahimahumullah Ta'ala. Et l'auteur donc de ce livre, l'auteur de ce livre n'est autre que Imam Al-Haramayn. Imam Al-Haramayn, c'était son, on le surnommait Imam Al-Haramayn. Abu Ma'ali Al-Juwayni,